Bonjour à tous, on aura l'occasion de se saluer tout à l'heure. Alors, il y a 3 semaines, peut-être vous en souvenez-vous, si vous étiez là, nous avions parlé de la nécessité de s'engager dans l'église locale. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Pas qu'un ou deux, j'espère. Hein. Eh bien, si je devais titrer notre exhortation ce matin, je dirais « faire le bon choix ». Ça sous-entend qu'il y ait peut-être un engagement derrière ça, mais voilà, « faire le bon choix ». Et pour appuyer cette pensée sur la parole de Dieu, je ne reprendrai pas le texte bien connu de Luc chapitre 10, la fin de ce chapitre, qui nous met en présence de Jésus, de Marthe et de Marie, où il est dit que Marie avait choisi la bonne part et donc avait fait le bon choix. Mais je ne prendrai pas ce texte. Vous connaissez probablement tous cette promesse dite comme un engagement, je reprends ce mot, comme un engagement ferme, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez où ça se trouve ? Oui, dans Josué. Ouais. Eh bien, oui, telle fut la phrase prononcée solennellement par Josué il y a plus de 3000 ans, même plus que ça, à la veille de sa mort. Devant tout le peuple rassemblé autour de lui, donc cette affirmation qu'il fait montre, et publique, hein, montre son intention profonde, sa profonde motivation qu'il avait, même à la fin de sa vie, de renouveler son vœu de servir l'Éternel, même à la fin de sa vie. Est-ce que, justement, ce n'est pas, pour la plupart d'entre nous ce matin, l'occasion, voilà, de renouveler aussi, comme l'a fait Josué en son temps. Alors, on n'est pas à la fin de notre vie, pour la majorité d'entre nous, peut-être pour tous ici, mais l'occasion de renouveler devant Dieu notre fidélité, donc à l'aimer, à le suivre et à le servir comme ça a été le cas pour Josué. Et peut-être même pour une personne qui serait là ce matin et qui pourrait affirmer, peut-être pour la première fois, peut-être l'a-t-elle fait chez elle juste avant de venir ou cette semaine, d'exprimer son désir au fond de lui-même, au fond d'elle-même, pareillement, de servir le Dieu que nous adorons. Le Dieu de Jésus-Christ que nous adorons. Eh bien, voilà, cette affirmation, nous la trouvons dans le livre de Josué, et je vous invite à prendre ce texte avec moi. C'est le dernier chapitre, puisque Josué est à la fin de sa vie, donc Josué 24. C'est son dernier discours que je me propose de lire avec vous. C'est un message vraiment fort qu'il adresse à toute l'assemblée qui était là et à travers lequel Josué nous exhorte et va exhorter tout le peuple, premièrement, de se souvenir de son parcours depuis le début. C'est la première partie du chapitre. Et puis, la deuxième partie du chapitre, à partir du verset 14, eh bien, il va appeler le peuple qui était là, ou plutôt ses représentants, comme on va le voir, à confirmer son attachement et sa fidélité à Dieu, comme lui-même Josué le fait en donnant son exemple. Et oui, ce Josué, c'est cet homme de foi. Peut-être quelques-uns d'entre nous ont étudié sa vie, parce que c'est vraiment très riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Cet homme d'expérience, maintenant, parce qu'il est arrivé à la fin de sa vie, et il a vu plein de choses passer. Durant toute sa vie, il a vu Dieu agir de façon miraculeuse et extraordinaire. Il a vu aussi au contact de son peuple combien il était versatile dans son attitude. Parfois, il allait vers Dieu, ce peuple, et parfois il s'en détournait. Et il allait vers Dieu, il s'en détournait, et continuellement ainsi. Et c'est pourquoi, voilà, parvenu à la fin de sa vie terrestre, il veut une nouvelle fois encourager la plupart, la majorité des membres de son peuple à la foi et à la fidélité au Seigneur. Mais je rajouterai cela en rappelant avec force, et on va lire ce passage, toute l'importance de faire le bon choix. Parce que faire le bon choix, ça a un impact pour toute la vie. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, ils le savent bien. Et donc, faire le bon choix pour sa vie, prendre le bon engagement, donc de servir l'Éternel Dieu. Et Josué le montre par son attitude, et publiquement, il renouvelle son vœu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, Josué 24, verset 1er. C'est un peu long. On va lire les 31 premiers versets, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, eh bien, de lire ce passage et puis en extraire, bon, sinon la quintessence, l'essentiel. Voilà. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. » Des temps un peu spéciaux là dans ma traduction, oui. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Guirgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, deuxième partie du texte, maintenant, craignez l'Éternel. et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » C'est pourtant ce qu'ils avaient fait. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Beau passage. On a presque envie, frères et sœurs, mes amis, d'arrêter là et de méditer ce passage en se disant à soi-même, oui, ce passage me concerne. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à recevoir son appel, parce que ce passage est un appel. À recevoir son appel et surtout à mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. C'est ça qui est important. Et si je tourne la page et je reviens au premier verset, peut-être ça sera la même chose pour vous de tourner la page, ou peut-être vous avez un smartphone, donc ça sera plus simple. Le tout premier verset, c'est souvent... le premier verset qui donne le ton à tout un passage, et c'est vrai pour ce passage lorsqu'on étudie un texte, et là pour bien comprendre l'enjeu qui est derrière le premier verset est de toute importance. Il nous est dit que Josué rassemble toutes les tribus d'Israël. Et puis ensuite, il donne une explication de ce que veut dire tout Israël. En fait, il ne convoque que ses représentants, voyez, les représentants des 12 tribus d'Israël, puisqu'il dit qu'il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Quelques milliers de personnes à rassembler dans un même lieu qui est Sichem. Parce que tout le peuple, c'est plus de 2 millions, 3 millions. C'est pas possible. Donc, il ne rassemble que ses représentants. Et bien sûr, les représentants, lorsqu'ils retourneront chez eux, eh bien, parleront au peuple pour lequel ils sont responsables, chacun, dans chacune des tribus. Autrement dit, lorsque Josué va s'adresser aux représentants, au final, c'est comme s'il s'adressait à tout le peuple. Et c'est pourquoi il dit il assembla toutes les tribus d'Israël, mais pratiquement seulement ses représentants. Vous voyez la petite différence, mais ça a un impact quand même d'une manière pratique, puisque concrètement, c'était trop difficile, bien sûr, de rassembler tout le monde. Et donc, tous ces responsables étaient bien présents à ce rassemblement convoqué par Josué, parce que c'était l'importance et la gravité, la solennité du message fort qu'il allait leur adresser, justifier le déplacement de tous ces gens qui venaient de tout le pays d'Israël. Et il n'y avait pas de voiture. Il fallait se déplacer à pied ou avec un animal, ou un chariot. Ça prenait beaucoup de temps. Mais tout le monde était là. Ça doit nous parler, ça. Tout le monde était là, à la convocation de Josué. Tous ceux qui représentaient le peuple d'Israël, à savoir l'ensemble des tribus, devaient être présents sans exception, en tout cas ceux qui pouvaient se déplacer. C'était comme une grande assemblée générale, comme on l'a fait aujourd'hui, hein, nous, de première importance, provoquée par Josué. Et je dirais que tout le monde était là au bon moment pour commencer la réunion. Parce que finalement, derrière, tout le monde reconnaissait en Josué son autorité comme venant de Dieu lui-même. Et parce qu'ils prennent tous cette convocation au sérieux, ils prennent tous cette convocation avec respect, pas seulement pour Josué, mais pour Dieu surtout. Comme si Dieu les avait convoqués lui-même. Mais vous savez, pour nos réunions, il en est de même. Il faut toujours considérer à travers l'humain qui convoque, qu'à travers lui, c'est Dieu qui convoque. C'est Dieu qui invite au rassemblement des uns et des autres. Eh bien, de même aujourd'hui, lorsque l'Église locale se rassemble, comme nous ce matin, au nom du Seigneur, parce que lorsque Josué a rassemblé tous ces gens, c'était au nom de l'Éternel. Il ne faisait pas ça de son propre chef. Et d'ailleurs, Dieu l'approuve, puisqu'il, juste après, au verset 2, il est dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, Dieu a approuvé la convocation de Josué. Eh bien, lorsque nous nous réunissons, au nom du Seigneur, il est bon et même, je dirais, impératif que nous nous préparions à cela et que nous cherchions, autant que cela dépende de nous, parfois ça ne dépend pas toujours de nous, mais autant que cela dépende de nous, d'être présents dès le début de la réunion. Comme ça a été le cas pour ce rassemblement, ils étaient là tous au bon moment pour que la réunion puisse commencer et Dieu puisse parler, leur parler. d'être là, mes habits, au bon moment. Non pas parce que le premier verset de Josué 24 parle de ponctualité. Vous lisez comme moi, ça ne parle pas vraiment de ponctualité. Josué n'a pas dit « là, soyez à l'heure ». C'était pas possible d'être à l'heure, il n'y avait pas de montre. Mais ils étaient pourtant tous là au bon moment. Trouver l'erreur. Pour nous. Qui avons une montre. Josué 24 ne parle pas de ponctualité, mais parce que notre présence au bon moment manifeste l'importance que nous accordons chacun à la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Nous sommes appelés à démarrer nos réunions au bon moment. Et c'est de cette façon que nous exprimons aussi notre amour pour Dieu, qui nous convoque en réalité. C'est de cette façon que nous exprimons également notre respect pour Dieu et pour les frères et sœurs qui, eux, sont à l'heure. Autant que cela dépend de nous. Mes amis, faisons cet effort. Nous avons tous à y gagner. Et c'est ainsi la volonté de Dieu. Je me demande, finalement, combien de fois ai-je répété ça? Et combien de fois n'avons-nous pas été entendus? Je ne sais pas pourquoi. Ça me désole. Lorsque nous adorons le Seigneur, il nous faut commencer ensemble. Ensemble. Et donc, nous y préparer, ça veut dire arriver avant même l'heure. Hein? C'est ça que ça veut dire. Pour que Dieu ainsi, puisse dire ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Parce que pour nous, il est question de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, ils étaient tous là. Et ils se retrouvent tous à Sichem. C'est aussi très important. Le premier verset, ils se retrouvent à Sichem. Et je me suis dit, ça a certainement un sens. Oui, forcément. Comme lorsque la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, utilise des noms de villes, des noms de lieux, des noms d'endroits. Ces noms sont souvent porteurs de souvenirs ou de choses qui s'y sont passées. Eh bien, Sichem ne fait pas exception à cette règle. Si je dis moi-même, je vais ou j'irai à Nancy, je ne dis pas ça, j'irai à Nancy parce que c'est une belle ville, c'est la préfecture de Meurthe-et-Moselle ou la capitale de la Lorraine. J'y vais parce que pour moi, et j'y ai été pendant des années et des années, parce que mes parents y ont vécu pendant près de 40 ans et j'y ai laissé pendant plus de 10 ans de nombreux souvenirs là-bas. Et donc, quand je parle, je parlais avec mes parents de Nancy, c'était vraiment pour évoquer des souvenirs incroyables. Et c'était toujours chargé, plein d'émotions. Eh bien, Josué a choisi Sichem parce qu'il a estimé pour lui que cet endroit était plein de souvenirs et d'émotions. Et c'est pourquoi il a convoqué tout son peuple à Sichem. Non pas seulement parce que géographiquement c'est au milieu de la Palestine et que ça permettrait à toutes les tribus, enfin tous ses représentants, facilement de converger au centre de la Palestine, parce que Sichem est géographiquement au centre. Il n'y avait pas seulement cette raison. La raison principale était spirituelle. Sichem, c'est l'endroit où Abraham a reçu la promesse du pays. Genèse chapitre 12. Sichem, c'est l'endroit où Jacob a fait disparaître les dieux étrangers qui étaient dans sa propre famille pour que sa propre famille, une fois débarrassée de ses idoles, puisse suivre l'Éternel. Genèse 35. Et puis, dans Josué, chapitre 8, Josué en parle aussi de Sichem. C'est donc pas par hasard qu'il a choisi Sichem comme lieu de rassemblement. Et que dans son exhortation, si vous reprenez le verset 23 de ce chapitre avec moi, si vous l'avez toujours sous les yeux, il répète ce que Jacob avait dit. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et à l'époque, il y en avait beaucoup. Énormément. Et enfin, Sichem, c'est non seulement une ville sur la carte, mais c'est aussi une vallée. Une vallée entourée de deux montagnes. Vous regarderez ça sur la carte, si vous pouvez. Donc je vais vous demander de l'admettre. Mais c'est bien décrit dans la parole de Dieu, dans d'autres passages. D'un côté, il y a la montagne d'Ébal, au nord. Et au sud, il y a la montagne de Garizim. Alors, prenons ensemble Deutéronome chapitre 11. On va lire ce passage parce que c'est très édifiant. Deutéronome chapitre 11. Et ce n'est pas pour rien donc que Josué a choisi Sichem. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 29. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, au sud. C'est moi qui rajoute au sud. Et la malédiction sur la montagne d'Ébal, au nord. C'est moi qui le rajoute aussi. Vous voyez donc qu'il est question soit d'obéissance, et qui conduit à la bénédiction, soit de volonté propre de continuer à faire ce qu'on veut, qui conduit à la malédiction. Et donc ce rassemblement provoqué par Josué va placer chaque enfant d'Israël, sans exception, devant un choix binaire. Et la parole de Dieu fait la même chose avec nous, hein, aujourd'hui. Soit suivre l'Éternel, soit suivre sa propre voie. Qu'est-ce que vous avez choisi? Attention à votre réponse. Car Josué les a repris. Vous vous souvenez dans la lecture? Attention à votre réponse. On ne dit pas « je veux suivre l'Éternel » et je fais le contraire, dans la vie pratique. Ce serait être hypocrite devant Dieu. Et Dieu le sait trop bien. Et donc, le texte nous dit, pour revenir à Josué, chapitre le premier verset de Josué 24, « Et ils se présentèrent alors devant Dieu. » J'ai résumé un peu toute la situation. Et je crois qu'il est nécessaire, dans nos vies agitées tous les jours, eh bien, à un moment donné, de s'arrêter et de nous présenter soit individuellement, soit collectivement, devant notre Dieu, le Dieu saint, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi ? Ben, ce rassemblement, là, dans Josué, n'avait pas pour but que tous les peuples puissent se retrouver. Parce que chacun était dispersé hein, dans les 12 tribus, et à un moment donné, ils se retrouvent tous. C'est formidable, ça, de se retrouver. C'est la communion fraternelle. Alors, ils se sont salués, ils se sont embrassés. C'est chaleureux, c'est fraternel. Ah, oui, ce n'est pas le but premier du rassemblement. Ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas ce qu'ils se rassemblent pour qu'ils se saluent. Et je suis sûr que ces choses ont bien eu lieu, bien sûr. C'est normal. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, eh bien, ça réjouit le cœur de revoir la personne. Donc ils étaient réjouis de tous se revoir dans ce même lieu. Mais ce n'était pas l'essentiel. J'espère que vous l'avez bien compris. Dieu veut avant tout que nous l'adorions, nous l'entendions et le recevions, lui, d'abord. Et la communion fraternelle, oui, vient ensuite, puisque nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et donc, avant d'inviter le peuple à choisir la voie où il veut s'engager, parce que c'est un appel à choisir, à faire le bon choix, eh bien, dans cette première partie des versets 1 à 13 inclus, j'espère que vous l'avez à peu près en tête, eh bien, Dieu, parce que c'est lui qui prend la parole, rappelle ici de nombreux faits et événements qui se sont passés de première importance, qui sont des événements historiques conduits par la main souveraine de Dieu. Vous avez un peu compté le nombre de faits et d'événements qu'il décrit là dans ce passage. Et il le dit parce que c'est très important pour le peuple d'Israël à l'époque, et c'est important aussi pour nous aujourd'hui de comprendre que la foi, leur foi à eux, notre foi en Jésus-Christ est enracinée dans l'histoire. Pour eux, peuple d'Israël, leur foi avait pour base l'histoire, les faits. Et pour nous, il en est de même. Alors, il fait mention dans tout ce passage des grandes étapes de l'histoire d'Israël. Alors, il y avait l'appel d'Abraham, verset 3. Si vous êtes avec moi, on voit l'appel d'Abraham, verset 3. On voit la sortie d'Égypte, verset 5 à 7. On voit la victoire sur tous ses ennemis, des versets 8 à 12. Et puis, on y voit, verset 13, pour terminer, la conquête de Canaan. Tous ces événements ont été menés de main de maître par le Dieu souverain qui contrôle toutes choses et qui mène à ses fins toute sa volonté. Tout y est dans ce passage à la gloire de Dieu. Et pour nous, notre foi, frères et sœurs, mes amis, est aussi enracinée dans l'histoire. Ce grand fait de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre, de pouvoir vivre par la foi. Et puis, nous pouvons repasser dans notre esprit, comme le peuple d'Israël, tous les événements qui se sont déroulés dans notre vie de chrétien peut-être, où j'ai été l'objet de la grâce, de la bonté de Dieu dans ma vie. Et je veux repasser cela dans ma tête. C'est mon histoire. Votre histoire est peut-être différente. Mais avec la même base concernant l'histoire initiale, celle qui concerne la croix de Jésus. Et là, j'ai un peu noté ça, j'ai regardé de près, un petit détail qui ne trompe pas, il va utiliser le pronom personnel « je » pendant plusieurs versets. « Je », c'est Dieu, hein ?« Je », « je », « je ». « Je », il figure pas moins de 17 fois pour appuyer son action souveraine dans la vie de son peuple. Et nous pouvons dire la même chose pour nous. C'est par sa grâce que Dieu est allé chercher Abraham là où il était, alors que avec sa famille, il servait d'autres dieux. Donc, il n'avait rien, Abraham, pour plaire à Dieu. Mais pourtant, il l'a choisi. Et dans son acte souverain, il l'a fait venir à lui par la foi. De même, il a fait sortir le peuple d'Égypte, pas parce que c'était un bon peuple qui lui obéissait, il était beau, magnifique, non. La parole nous dit que, eh bien, il a agi en faveur de son peuple parce qu'il l'a aimé. Il l'aimait. Acte souverain de bonté envers un peuple qui ne le méritait pas. Eh bien, il en est de même pour nous, mes amis. Ne nous a-t-il pas, par Jésus-Christ, délivré du bourbier du péché dans lequel nous étions enfoncés? Donc, on y voit Dieu qui domine toute la situation, qui est au contrôle sur tout. Et on voit, par exemple, si vous êtes avec moi, versets 9 et 10, qu'il est même au contrôle des forces invisibles comme visibles. Il est au contrôle des forces invisibles comme visibles. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Invisible, ça veut dire dirigé par Satan, les forces invisibles. Et il prend l'exemple de Balak et Balaam, dont il va contrôler les excès. Et par exemple, oui, il est dit que Balaam a voulu à un moment donné maudire le peuple. Eh bien, Dieu a changé le mal en bien et Balaam a fini par bénir le peuple. Vous voyez, même les forces invisibles, gouvernées, conduites par Satan, Dieu peut changer ça. Parce qu'il est souverain. Il est au-dessus de toutes ces choses. Et on peut avoir quelques inquiétudes en pensant à ces forces invisibles qui nous veulent du mal. Et vous avez raison de penser à ça parce que la parole l'affirme. Mais comme nous montre ce texte et nous le démontre, Dieu est de loin au-dessus de tout cela. Et donc, nous pouvons avoir confiance. Et que dire des forces visibles, alors? Des forces visibles qui nous entourent, il y en a partout, qui nous veulent du mal, même si parfois on n'en est pas conscient. Toutes ces idoles qui nous entourent, elles nous veulent du mal, en fait. Et pourtant, on ne lutte pas contre elles. Au contraire, parfois, on est trop conciliante avec elles. Alors là, les forces visibles, verset 11, on y voit des peuples, on y voit des rois dont les noms sont durs à prononcer, mais à cette époque, ces noms ont fait trembler d'effroi le peuple d'Israël. Je ne les répéterai pas, il y en a un certain nombre. Ils étaient tous impressionnants les uns que les autres. Et nous, aujourd'hui, nous avons également nos inquiétudes par rapport aux choses visibles. Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent. Alors, j'ai pensé à ça. Priez d'abord et ensuite faites cet exercice. Remplacez le nom de ces sept peuples qu'il y a au verset 11. Par toutes les inquiétudes que vous avez aujourd'hui dans le présent. Je suis sûr que vous en avez. Remplacez les noms là des versets 11 par vos propres inquiétudes. Je suis sûr que tout le monde en a, sans exception. Ça peut être une épreuve, passagère ou pas. Ça peut être le veuvage. Difficile à supporter. Ça peut être la vieillesse qui se fait de plus en plus sentir. Ça peut être des problèmes dans le travail, ça peut être la situation personnelle compliquée, ça peut être les relations dans la famille compliquées aussi. Mais par-dessus tout, ça peut être aussi la peur d'être un témoin fidèle de Jésus-Christ au risque d'en souffrir. C'est ça aussi nos inquiétudes. Et puis il y a les inquiétudes qui touchent l'avenir. Ce que vous allez devenir, ce que vont devenir vos enfants, ce que peut devenir l'Église dans peu de temps. Toutes ces inquiétudes qui sont là, qui sont bien réelles. Voilà, mettez-les à la place du verset 11. Et Josué rappelle avec force, en laissant Dieu lui-même rappeler cela. Comment donc il a agi envers tous ces peuples, tous ces rois, toutes ces choses visibles qui inquiétaient le peuple. Tous les jours, hein, ça les inquiétait. Comment Dieu a pris cela en charge, les a libérés, aussi grand et inquiétant qu'étaient ces puissances. Et Dieu veut faire la même chose avec nous, nous libérer de nos inquiétudes, pour que nous renouvelions notre confiance en lui. Et puis, je pensais au verset 7 de ce passage. S'il est vrai que Dieu n'est jamais dépassé par tous les événements de notre vie, de notre siècle, de notre temps, qu'il est assez puissant et bon pour résoudre tous les problèmes, toutes les choses par lui-même. Et c'est vrai. Qu'il est capable de nous faire du bien au-delà même de ce que nous pensons, comme c'est ce qu'il a fait cette semaine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on se rassemble, on peut le remercier également pour cette semaine. Parce que c'était une semaine de grâce. Malgré ça, il veut néanmoins que nous lui adressions nos prières. Et c'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils crièrent à l'Éternel. Et ils crièrent à l'Éternel, c'est un temps en hébreu ou en grec, selon les traductions, qui veut dire que c'est une action continue. C'est pas... un moment, puis après la chose va bien, je m'arrête et je passe à autre chose. Non, ils crièrent. C'est une chose qui s'inscrivait dans la continuité, dans la durée. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants, encore aujourd'hui, que nous lui adressions nos prières, que nous lui confessions nos péchés. Que nous intercédions les uns pour les autres, que nous reconnaissions en Dieu notre besoin de nous attacher toujours plus à lui au vu de toutes les choses visibles qui nous environnent et qui nous veulent du mal. Le verset 7 nous montre là toute l'importance de la prière continue, individuellement, collectivement, et à laquelle Dieu va répondre, parce qu'il aime celui qui s'adresse à lui dans l'humilité, dans la fidélité, dans la foi, dans la persévérance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dans la prière aussi. Et c'est ce que, durant toute sa vie, Josué a fait. Et il veut leur donner un exemple. Tout à l'heure, Pierre l'a redit, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître, c'est un présent qui indique que l'action est continue dans le temps. Il n'y a pas d'arrêt. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, après ce rappel de l'histoire, indispensable pour nourrir la foi du peuple, comme c'est indispensable pour que ça nourrisse notre foi également aujourd'hui. Josué continue au verset 14. Maintenant que tout ça nous a été rappelé, que le Seigneur, il est pour nous, et donc qui sera contre nous? Qu'allons-nous faire? Maintenant, l'appel est lancé au peuple. Et en donnant son exemple, Josué n'a fait que adopter la juste attitude envers son Dieu. Il n'y a pas une autre attitude plus juste que celle-là. De dire, mais aussi de faire, servir l'Éternel. Donc tout ce rappel historique était en fait destiné à raviver donc le cœur de chacun dans la reconnaissance et donc dans une attitude nouvelle portée vers la confiance et l'obéissance. Est-ce que nous sommes portés, frères et sœurs, par la parole de Dieu, par ce qu'elle nous dit de Dieu lui-même, de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes portés, nouvellement portés, dans une attitude de confiance et d'obéissance? Et donc, il va entraîner ses frères sur ses traces. Et c'est ça, un leader spirituel, il va donner son propre exemple. Josué, même si vieux qu'il était, il avait encore la force de le faire. Affirmation solennelle qui sous-entend qu'il continuera à servir Dieu seul, comme il l'a toujours fait et comme les enfants d'Israël ne l'ont pas fait jusque-là. Parce qu'ils disent, si, nous avons servi l'Éternel, mais en plus de ça, ils servaient d'autres dieux. Alors, qui souvent d'ailleurs étaient des dieux qu'ils avaient adoptés, des peuples qu'ils avaient conquis. Est-ce que, mes amis, nous n'avons pas aussi des dieux que nous servons en plus de celui que nous voulons servir? Alors nous disons, mais oui Seigneur, je veux te servir, mais Dieu me dit, mais regarde à côté. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ta vie? L'argent, les loisirs, le travail, la télé, l'ambition personnelle, Internet, les réseaux sociaux, le smartphone. Oh là là là, Seigneur. Et je peux en rajouter d'autres, des dieux qui remplace le Dieu unique et vrai. Et donc Josué va leur dire, non, attention à ce que vous allez dire. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère aucun rival dans notre vie et dans nos relations avec lui. Et donc Josué invite son peuple à faire le ménage. C'est ça qu'il veut dire. À faire le ménage dans sa vie, à être conscient que effectivement Dieu a raison me concernant. Et donc, il m'encourage, Josué, à me débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel dans ma vie, qui le remplace et qui m'empêche d'ailleurs à le servir. Des fois, je me dis, mais pourquoi il y a si peu de monde dans les réunions? Pas seulement le dimanche, mais dans la semaine. Mais parce que vous êtes occupé à autre chose, à servir vos dieux. Pas vrai? Alors que vous tous, puisque vous êtes là ce matin, vous êtes donc physiquement, potentiellement aptes à vous déplacer pour vous réunir et répondre à l'appel et à la convocation de Dieu. Verset 19, attention, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Dans les conditions actuelles, c'est-à-dire tant que des péchés ou des dieux étrangers sont toujours présents dans votre vie, on ne peut pas servir deux maîtres, nous dit la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 nous dit bien que les chrétiens de Thessalonique ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Sous-entendu, on ne peut servir le Dieu vivant et vrai que si auparavant, préalablement, on s'est débarrassé des idoles qui étaient là dans notre vie avant. Et donc, frères et sœurs, ce texte, vraiment, et je vous invite à le reméditer, sonne comme un appel. Un appel, premièrement, à se rassembler pour écouter. Une écoute basée sur le souvenir de ce que Christ a fait pour chacun de nous. Et ensuite, c'est un appel porté par une exhortation de la main, de la main du Seigneur, et qui s'adresse à toi comme à moi, je m'inclus dedans bien sûr, et qui me dit, et toi maintenant, verset 14, toi maintenant, qu'as-tu choisi? C'est ça la question. Confirme-moi ton choix. Josué a confirmé. Confirme-moi ton choix. Est-ce que tu vis aujourd'hui conformément à ma volonté? Le seul vrai Dieu est devant nous avec toute sa puissance, sa grandeur, son amour, sa bonté, à cause de la croix. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous rappelle tout le parcours qui a été accompli, ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a sortis de notre état. Est-ce que, avec tout cela, nous voulons continuer à clocher des deux pieds? Ou au contraire, nous engager comme Josué et le peuple, d'un côté à abandonner tout ce qui déplaît à Dieu, et donc ensuite, seulement ensuite, à déclarer comme il l'a fait devant Dieu et publiquement devant tout le monde, renouveler cela, son désir de servir Dieu seul de tout son cœur. Et vous savez, si tel est ainsi, nous serons du côté de Garizim et non pas du côté d'Ebal. Garizim, c'est la bénédiction. Et ainsi, l'Église sera bénie. Pas autrement. L'Église grandira. Pas seulement physiquement, par le nombre, mais également en qualité. Et puis, vous savez, l'avantage de se déclarer publiquement comme l'a fait Josué, un peu à l'exemple du baptême, le baptême d'eau, hein. Eh bien, c'est que, en fait, lors de cette sorte d'engagement, nous prenons Dieu à témoin et aussi les autres à témoin, comme c'était le cas, c'est précisé dans le texte. Hein, vous avez vu, on parle de témoin. Et ça permet, lorsque nous prenons d'autres personnes à témoin, comme lors du baptême, eh bien, ça permet, que ces personnes nous rappellent, le cas échéant, si nous sommes en train, quelque peu, de nous égarer de la vraie foi, en nous le rappelant, en disant, mais tu ne t'étais pas engagé par le baptême ? Et donc, oui, lorsque nous nous déclarons, soit en confessant notre foi devant tous, soit en passant par les eaux du baptême, eh bien, nous déclarons publiquement notre désir de servir le Seigneur. Et lui seul. Alors, vous êtes chrétien, et pourtant, vous avez peur de vous engager à servir Dieu seul selon ses critères, à lui. Et pourtant, Dieu nous donne la réponse. Si vous abandonnez ce qui dans votre vie prend sa place, alors je vous bénirai. Et je vous donnerai en plus la force d'accomplir ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il ne va pas nous le donner, le vouloir et le faire, si nous continuons à servir des idoles dans notre vie. Ce serait hypocrite. Dieu avait dit dans Josué chapitre 1, versets 7 à 9, que, en fait, l'action sanctificatrice de sa parole, eh bien, permet aux croyants, lorsqu'ils s'en imbibent jour après jour, d'être conduits sur la voie de la vérité et d'être bénis de Dieu. La parole de Dieu, méditée tous les jours, à cette puissance de fortifier nos cœurs dans la foi et de renouveler nos forces jour après jour. Alors, et je termine par là, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, j'ai cette pensée finale. Dieu nous dit, abandonne ta propre volonté, suis-moi, et regarde en même temps ce que j'ai fait pour toi. N'est-ce pas l'attitude juste d'adopter par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi? Et donc que le Seigneur nous aide, à nous qui sommes à lui, à réaffirmer, voilà frères et sœurs, comme Josué l'a fait, notre fidélité par un engagement ferme, et cela, mon Dieu, l'attend de moi-même, l'attend de vous-même, faire le bon choix.